Imagine la scène. On est au tout premier siècle de notre ère, en plein cœur de l'Empire romain. Il y a un maître de maison, un type super riche et puissant, qui force l'un de ses esclaves à descendre dans un bassin d'eau.
Ouais, pour un rituel d'immersion totale, un baptême en fait.
Exactement. Et l'eau est censée laver son ancienne vie. Mais, et c'est là qu'il y a un détail complètement effrayant, avant que l'esclave ne descende dans l'eau, le maître exige qu'il garde ses lourdes chaînes de fer au poignet.
Ah ouais, en plein rituel.
En plein rituel, ouais. Et pourquoi ? Bah, pour exploiter une faille juridique un peu vertigineuse sur la question de l'identité et de la liberté. Une faille qui, en fait, terrifiait littéralement les propriétaires d'esclaves à l'époque.
C'est une image historique incroyable et ça illustre tellement bien à quel point les idées qui circulaient à ce moment-là, c'était pas juste des concepts intellectuels en l'air, ça menaçait tout l'ordre social.
Totalement.
Parce que l'idée qu'une personne puisse sortir de l'eau en étant, selon leurs termes, une nouvelle création, ça impliquait que tous les anciens contrats, y compris les actes de propriété sur des êtres humains, devenaient tout simplement caducs.
C'est fou quand on y pense. Et aujourd'hui, on plonge justement au cœur de ces idées avec les notes et l'analyse du docteur Kenner sur l'épître aux Romains.
Les fameux chapitres 5 et 6.
Voilà. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre une mécanique vraiment précise. On va voir comment l'apôtre Paul réussit à faire le pont entre, d'un côté, une théorie théologique énorme sur la justification de l'humanité, et de l'autre, la pratique, quoi. Comment on vit concrètement cette transformation au quotidien.
Ouais, parce que c'est pas du tout un manuel de développement personnel où on te dit de repeindre un vieux mur en adoptant deux ou trois nouvelles habitudes.
Ah non, pas du tout. Là, le texte propose de raser la structure jusqu'aux fondations pour reconstruire sur un tout autre continent. Bon, décortiquons un peu tout ça.
On t'écoute.
Pour bien saisir cette nouvelle vie, la rhétorique de Paul, elle opère un basculement assez spectaculaire. Au chapitre 4, il passait son temps à argumenter autour de la figure d'Abraham. Et là, bam ! Au chapitre 5, il abandonne complètement ce personnage pour remonter à la toute première page de l'histoire, à savoir Adam.
Et c'est un mouvement tactique qui est en fait hyper brillant de sa part. Parce que pour l'auditoire de l'époque, et surtout pour ceux qui venaient de la tradition juive, se rattacher à la lignée d'Abraham, c'était la garantie d'être du bon côté de l'histoire, quoi.
D'appartenir au peuple élu.
C'est ça. Mais là, Paul, il élargit d'un coup la focale à l'échelle de l'humanité tout entière. En remontant à Adam, il vient neutraliser toutes les divisions ethniques ou religieuses de son public. Il leur dit en gros... Bien avant d'être les héritiers d'une promesse spécifique, tous les humains partagent la même tragédie originelle.
Attends, je t'arrête un instant. Parce que pour un esprit moderne, pour ceux qui nous écoutent, quand on dit Adam, on visualise tout de suite un homme un peu naïf dans un jardin qui croque dans une pomme.
L'image classique, ouais.
C'est presque un conte pour enfants, en fait. Du coup, on peut se demander pourquoi l'apôtre en fait une feature d'une telle gravité capable d'englober toute l'humanité.
Et ce qui est fascinant ici, c'est que le contexte de la tradition juive du 1er siècle offre une perspective, mais alors, totalement différente de notre imagerie populaire avec la pomme.
Ah bon ?
C'était perçu comment alors ?
Adam, c'était pas du tout vu comme un simple mortel un peu candide. Il y a des textes de l'époque qui le décrivent littéralement comme une créature cosmique.
Genre un géant. Oui, un être aux proportions gigantesques, qui était enveloppé d'une gloire divine tellement éblouissante que sa splendeur illuminait la terre entière avant la chute.
Ah ouais, on est loin du jardinier, là.
Très loin. Donc, par conséquent, la chute d'Adam, c'est pas juste perçu comme un petit faux pas moral. C'est l'effondrement d'un titan, quoi. C'est une catastrophe à l'échelle de la création qui a complètement fracturé l'univers. Quand Paul dit que l'humanité a perdu la gloire de Dieu en Adam, il fait directement appel à cette mémoire collective d'un désastre monumental.
D'accord, je vois mieux. Et ce désastre monumental, du coup, ça nous amène à l'une des plus grandes controverses de traduction de toute l'histoire de la pensée occidentale. Parce que pendant des siècles, on a enseigné que chaque être humain naissait en portant la culpabilité juridique de cet acte d'Adam.
Comme si la faute pénale était, genre, inscrite dans notre code génétique.
C'est exactement ça.
Et l'histoire de cette doctrine, c'est vraiment une leçon formidable sur l'impact des barrières linguistiques. Parce que c'est saint Augustin, un type dont la pensée a littéralement structuré tout l'Occident chrétien, qui a popularisé cette idée de transmission génétique de la culpabilité.
Et c'était basé sur une erreur, c'est ça, hein ?
Et oui, le problème central, c'est qu'Augustin, il construisait sa théologie sur une traduction latine qui était défectueuse. Il faut savoir qu'il ne lisait pas le grec original de l'apôtre Paul.
D'accord.
Et cette fameuse traduction latine, elle disait en substance que tout son péché est, écoute bien, en Adam.
Juste la préposition « en ». C'est fou, une simple préposition qui vient changer la destinée psychologique de millions de personnes.
Ah mais le poids de cette préposition est colossal. Parce que si on regarde du côté des pères de l'Église d'Orient, des gars comme Origène, Jean Chrysostome ou Théodoret, eux, ils lisaient et ils respiraient le grec.
Donc ils avaient accès au texte original.
Voilà. Et leur conclusion est radicalement différente. D'ailleurs, elle s'aligne parfaitement avec les traductions modernes. Le texte grec indique, en réalité, que la mort s'est propagée à tous les hommes parce que tous ont péché.
Ah, la nuance est énorme.
C'est pas du tout la même chose. L'héritage d'Adam, c'est pas un casier judiciaire pré-rempli à la naissance. C'est l'aliénation, c'est la séparation d'avec la source de la vie. En fait, l'humanité naît dans une espèce d'atmosphère spirituellement viciée.
Donc c'est plutôt une condition.
C'est ça. Et à cause de cette condition, chaque individu finit inévitablement par commettre ses propres fautes, de son propre chef.
Tu sais, pour rendre cette mécanique un peu plus visuelle, j'ai pensé à une analogie moderne. On pourrait comparer cet héritage à un virus informatique fondamental.
Oh, j'aime bien l'idée. Vas-y.
En gros, le péché d'Adam, ça aurait corrompu le système d'exploitation de base de l'humanité. Donc, on est tous avec ce système instable, ce virus tourne en arrière-plan, il fragilise nos défenses.
Ouais.
Mais au bout du compte, on choisit quand même, individuellement et activement, de cliquer sur les mauvais liens frauduleux. Le virus crée la condition, il le rend vulnérable, mais c'est quand même l'utilisateur qui exécute le programme malveillant à la fin.
C'est une excellente image. L'idée du système d'exploitation corrompu, ça illustre parfaitement la condition humaine selon le texte. Et du coup, pour démontrer comment on sort de ce système défaillant, Paul va utiliser des outils rhétoriques super pointus.
Genre quoi ?
Il déploie ce qu'on appelle la synchrésis. C'est une méthode de comparaison stylisée pour mettre en parallèle Adam d'un côté et le Christ de l'autre. Et il associe ça à un argument très typique de la logique rabbinique, le Kal Vaomer.
Le Kal Vaomer ? C'est quoi exactement ?
En gros, c'est l'argumentation du mineur au majeur. Le raisonnement de Paul, c'est le suivant. Si l'acte de désobéissance d'un seul homme, un être terrestre, a eu la puissance de plonger des milliards d'individus dans la mort, imagine la puissance exponentielle de l'acte de justice du Christ, qui est un être divin.
Ah, je vois. De la moindre cause à la plus grande.
Exactement. Si le virus a pu détruire tout le réseau, alors la mise à jour absolue a par définition infiniment plus de force pour le restaurer.
Mais attention, parce que cette logique rhétorique du mineur au majeur, elle crée un peu un paradoxe.
Comment ça ?
Si on suit le raisonnement de Paul jusqu'au bout, l'acte d'Adam infecte toute l'humanité sans aucune exception. Donc logiquement, si l'acte du Christ est supérieur, il devrait sauver toute l'humanité par défaut. Est-ce que ça veut dire que le texte valide l'universalisme ? Genre le salus automatique pour absolument chaque être humain, peu importe ce qu'il fait.
C'est une super question. Et le docteur Kinner souligne précisément que ce parallélisme, il est en fait asymétrique. L'intention de Paul, c'est pas du tout d'établir une équation mathématique parfaite.
D'accord.
Son but, c'est de contraster la nature profonde des deux actes. Adam, lui, cherchait à s'élever, il voulait accaparer la divinité pour lui-même, et c'est ça qui a causé la chute. Le Christ, à l'inverse, il s'est humilié volontairement jusqu'à l'exécution sur une croix.
Le contraste total, quoi.
Voilà. Et cette obéissance, elle offre bien la restauration. Mais, et c'est là le point crucial, elle nécessite un principe de solidarité.
La solidarité avec Adam, elle est purement biologique. On l'a subie par la naissance, on n'a pas le choix.
Mais la solidarité avec le Christ...
Elle est relationnelle. Ça demande une démarche active, ce que Paul appelle la foi. Pour reprendre ton analogie de tout à l'heure, la mise à jour du système, elle ne s'installe pas secrètement pendant la nuit sans te demander ton avis. Il faut l'autorisation de l'utilisateur.
C'est super clair. Donc la solidarité, ça implique un choix conscient. Mais du coup, ça me fait penser à autre chose. Si l'humanité entière souffrait de ce virus mortel depuis l'aube des temps, comment on explique le rôle de la loi de Moïse là-dedans ?
Ah, la fameuse loi. Bah oui, pour ceux qui écoutent, on pourrait légitimement penser que les commandements, les règles morales strictes données au Sinaï, ça a été donné pour agir un peu comme un antivirus, non ?
Pour réparer ou au moins endiguer la corruption du système.
Eh bien, l'argumentation de Paul au chapitre 5 va frustrer cette attente de manière assez spectaculaire. Il avance clairement que la loi n'a jamais, au grand jamais, été conçue comme un remède. Pire que ça, son introduction dans l'histoire humaine a même aggravé la situation sur le plan du diagnostic.
Attends, c'est totalement contre-intuitif. Comment une loi divine, qui est censée être bonne, pourrait aggraver le problème qu'elle est censée régler ?
L'observation des faits historiques et archéologiques donne en fait complètement raison à la logique de Paul. La mort, la violence, les atrocités, tout ça existait des millénaires avant que Moïse ne redescende de sa montagne avec ses tables de pierre.
Oui, c'est vrai. Le dinosaure, la préhistoire.
Voilà, la paléontologie nous montre un monde imprégné de mort bien avant l'apparition des premiers codes juridiques. Donc, la loi n'a pas inventé le mal, ni même causé la mortalité. Ce que la loi mosaïque a provoqué, en réalité, c'est la mutation du péché en transgression.
Oula, faut qu'on clarifie cette nuance. C'est quoi la différence fondamentale entre un péché et une transgression dans ce contexte précis ?
C'est simple. Le péché, c'est une défaillance morale globale, une corruption inhérente. La transgression, par contre, c'est l'acte de franchir une ligne d'interdiction qui a été formellement tracée et communiquée.
Comme un panneau sur la route ?
Humaine.
D'accord. Si je reprends le registre des analogies médicales, ça veut dire que la loi, elle fonctionne exactement comme un appareil d'IRM ultra sophistiqué.
Oh oui, très bonne image.
L'humanité est malade, elle tousse, elle dépérit. On passe la société dans cet IRM moral qui est la loi. L'appareil est parfait, il détecte la tumeur de l'égoïsme et de la violence avec une précision absolue, il en donne la taille, l'emplacement exact.
C'est ça.
Mais le problème de l'humanité, c'est d'avoir confondu l'outil de diagnostic avec le traitement. L'IRM montre la maladie mortelle en haute définition, d'accord, mais la machine elle-même ne possède aucun scalpel pour extraire la tumeur.
C'est exactement le problème. L'impuissance de la loi réside dans sa nature extérieure. Elle informe le patient de sa condition dramatique, elle lui dicte, de l'extérieur, la santé parfaite qu'il devrait avoir, mais elle n'injecte aucune force vitale pour l'aider à opérer la transformation.
Et un diagnostic sans le remède, ça produit que du désespoir.
Totalement. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, on voit que Paul, en démontrant cette impasse, prépare le terrain de manière magistrale pour sa solution finale qu'il va présenter au chapitre 8. Une solution basée sur la fameuse prophétie de Jérémie 31.
La nouvelle alliance, c'est ça ?
De l'extérieur. Mais ce sera l'Esprit divin agissant directement à l'intérieur, recréant le cœur humain de l'intérieur pour qu'il désire naturellement faire le bien.
Mais attends. Si l'IRM de la loi ne fait que nous condamner, et que la chirurgie de l'esprit, c'est la seule solution, comment on passe de la salle d'attente à la table d'opération ? Comment, concrètement, un individu du 1er siècle pouvait s'approprier cette chirurgie radicale ?
C'est là qu'intervient le chapitre 6 avec le fameux concept du baptême.
Mais il faut qu'on s'arrête tout de suite, parce qu'il faut effacer l'image contemporaine des quelques gouttes d'eau posées sur le front d'un nourrisson. L'immersion du 1er siècle, ça portait une charge culturelle foudroyante, n'est-ce pas ?
Absolument. Le rituel de l'immersion, ça s'inscrivait dans le paysage quotidien du Moyen-Orient. Tu avais les bains rituels de purification, ce qu'on appelle les mikvaot, qui parsemaient vraiment toute la Judée.
Et c'était hyper réglementé, non ?
Très. Les règles rabbiniques exigeaient l'utilisation d'eau vivante, c'est-à-dire une eau en mouvement reliée à une source naturelle ou à de l'eau de pluie. En pleine période de sécheresse, maintenir cette pureté, ça exigeait une ingénierie complexe avec tout un système de cisternes pour éviter que l'eau ne devienne stagnante ou croupie.
J'imagine le travail énorme derrière.
D'ailleurs, l'archéologie a mis au jour des résidences somptueuses appartenant à la classe dirigeante, les Sadducéens, près du mont du Temple. Elles étaient équipées de vastes bains privés directement taillés dans le roc. Donc tu vois, l'immersion en soi, c'était très familier. Mais le baptême, n'en parle Paul, lui, il emprunte à une catégorie beaucoup, beaucoup plus extrême.
Laquelle ?
Le baptême des prosélytes.
Ah, c'est le bain réservé à ceux qui ne sont pas nés juifs et qui souhaitaient se convertir, c'est bien cela ?
Exactement.
Ce qui rend l'usage de ce symbole par Paul d'autant plus choquant pour son public juif. En gros, il demande à tout le monde, y compris aux juifs de naissance, de passer par le rituel réservé aux étrangers.
L'offense culturelle est immense. Le baptême des prosélytes, ça symbolisait la mort de l'ancienne identité païenne et la naissance au sein du peuple de Dieu. Et pour s'assurer que la rupture soit vraiment totale, le rituel exigeait une immersion complète et s'effectuait dans la nudité absolue.
La nudité absolue, carrément.
Oui, parce que l'eau devait entrer en contact avec chaque millimètre de peau. Le niveau de scrupule autour de cette immersion était tel que des textes rabbiniques ultérieurs rapportent des débats honnêtement assez comiques.
Ah bon ? Quel genre de débat ?
Les maîtres de la loi déterminaient par exemple que si le converti avait un minuscule fil d'haricot coincé entre les dents au moment de plonger dans l'eau, le bain entier était invalidé.
Attends, un fil d'haricot ? Sérieusement ?
Très sérieusement, parce que la barrière de ce petit fil empêchait l'eau d'envelopper la totalité de l'être. Donc il fallait tout recommencer.
C'est fou cette obsession. Mais au-delà de l'anecdote sur l'hygiène dentaire, ça démontre vraiment l'obsession d'une transition sans aucune faille. C'est une mort et une résurrection. Et d'ailleurs, cette insistance sur la mort d'une identité pour renaître, ça a nourri une théorie super tenace au XXe siècle. L'idée que Paul aurait tout simplement plagié les mythes païens pour inventer le christianisme.
Oui, l'école de l'histoire des religions a effectivement tenté de prouver ça. Il disait que Paul s'était inspiré des cultes à mystère gréco-romain, tu sais, ceux qui vénéraient des divinités mourantes et ressuscitantes.
Et ça tient la route comme théorie ?
Pas du tout ! L'analyse historique rigoureuse a complètement démantelé cette idée. Parce que ces mythes païens, ils célébraient surtout les cycles agricoles. La mort de la végétation en hiver et son retour au printemps. Ça n'a rien à voir avec une résurrection historique ou une justification morale.
Ah ! C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc les chronologies ne collent pas en fait.
C'est ça. De nombreux récits païens détaillant ces soi-disant résurrections sont en réalité largement postérieurs aux écrits de Paul. Ils semblent plutôt avoir été influencés par l'expansion fulgurante du christianisme et non l'inverse. L'apôtre puise son vocabulaire de la résurrection non pas dans les mythes du printemps, mais directement dans les prophéties juives, comme celles qu'on trouve au chapitre 12 du livre de Daniel.
Donc, le baptême, c'est pas une espèce de magie importée de cultes étrangers. C'est l'accomplissement d'une promesse juive. Le docteur Kenner utilise d'ailleurs une super analogie, celle de la bague de fiançailles, pour expliquer la fonction de cette eau.
Oh oui, elle est parfaite cette analogie.
Bah oui, parce que le métal d'une alliance, il n'a aucun pouvoir magique pour forcer deux personnes à s'aimer. L'engagement du cœur et la décision juridique précèdent l'objet.
Tout à fait.
Mais d'un autre côté, sans la bague, l'engagement intime manque de sa proclamation publique et matérielle devant la société. Le baptême, ça fonctionne comme cette alliance. Il ne produit pas le salut par la chimie de l'eau, mais il est l'acte corporel, physique et public qui vient sceller la rupture intérieure opérée par la foi.
Et c'est précisément cette déclaration publique d'une nouvelle identité qui terrorisait l'autre établi. Le baptême symbolisait une mort légale. Si une personne descend dans l'eau et meurt avec le Christ, elle est libérée de toutes ses obligations passées.
Ce qui nous ramène direct à notre histoire du début.
Exactement. L'anecdote saisissante de notre introduction. Certains maîtres juifs acceptaient de baptiser leurs esclaves pour en faire des prosélytes, mais ils comprenaient très bien le danger juridique. Si l'esclave devenait une nouvelle création en sortant de l'eau, il n'était techniquement plus le même individu qui avait été acheté des années plus tôt. Le contrat devenait nul et l'esclave devait être affranchi.
D'où les fers maintenus pendant la baignade. C'était une tentative désespérée de garder le contrôle matériel sur un individu qui vient tout juste de s'émanciper spirituellement.
C'est ça, ça prouve que pour la société antique, cette théologie de la nouvelle identité, elle avait des conséquences économiques hyper directes et concrètes.
C'est fascinant. Mais du coup, cette idée de libération, ça introduit quand même le paradoxe le plus troublant du chapitre 6.
Lequel ?
Paul passe son temps à expliquer que la mort avec le Christ nous libère de nos chaînes. Pourtant, quelques lignes plus loin, il exhorte son auditoire à se faire, et je cite, « esclave de la justice ». Mais du coup alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pourquoi remplacer une métaphore de libération par un vocabulaire de servitude ? La vraie liberté, ça serait pas l'absence totale de maître ?
Oui, et cela soulève une question importante sur la vision du monde de l'époque. Parce que la conception moderne de la liberté absolue, celle d'un individu totalement autonome qui ne rend de compte à absolument personne, eh bien pour Paul, c'est une illusion philosophique. L'être humain sert toujours un maître.
Soit l'un, soit l'autre.
Voilà. Soit ses propres pulsions destructrices, soit un principe supérieur. Et pour bien comprendre l'image qu'il emploie, il faut examiner la structure de l'esclavage romain. Ça n'avait rien à voir avec les horreurs de l'esclavage racial qu'on a connu ces derniers siècles. L'esclavage domestique antique prévoyait des mécanismes de sortie.
Les esclaves pouvaient être affranchis.
Très fréquemment, oui. Et surtout, ils pouvaient accumuler un petit pécule, un salaire qu'on appelait le péculium, gagné à la sueur de leur front, et qui leur permettait parfois d'acheter leur propre liberté.
Donc, le travail acharné permettait d'acheter sa sortie du système.
Exactement. Et c'est tout le contraste du verset 23 où Paul dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. »
Ah, le mot « salaire » prend tout son sens.
Oui, le terme envoie directement au pécule de l'esclave ou à la solde militaire. C'est la rétribution méritée pour un travail fourni à un maître destructeur.
Et à l'opposé ?
À l'opposé, la justice divine, elle, n'offre pas un salaire que l'on pourrait mériter à la force des poignets. Elle offre un don gratuit, un acte de mécénat pur, ce qu'on appelle en grec le charis, la grâce. L'esclavage à la justice dont parle Paul, c'est en réalité une allégeance totalement volontaire et reconnaissante envers un bienfaiteur qui nous a rachetés de l'abattoir pour nous adopter dans sa propre famille.
C'est très beau dit comme ça. Et ça met bien en lumière la tension constante dans l'enseignement de Paul, cette tension entre l'indicatif et l'impératif.
Tu peux développer un peu ?
Bien sûr. D'un côté, il énonce un fait objectif. Ça, c'est l'indicatif. Il dit « Vous êtes mort au péché, votre contrat est résilié, terminé ». Et de l'autre côté, il lance un ordre psychologique, l'impératif, où il dit « Considérez-vous comme mort au péché ». En fait, l'impératif exige que notre mentalité rattrape la réalité spirituelle qui est déjà accomplie.
C'est une excellente analyse. Et la distinction entre l'approche de Paul et les philosophies de son temps se trouve précisément ici. Pense aux philosophes stoïciens de l'Antiquité. Eux, ils pratiquaient une forme de thérapie cognitive très poussée. Ils tentaient de maîtriser leurs passions et de modifier leurs désirs, mais par la seule puissance de leur raisonnement intellectuel.
Ça devait être épuisant.
C'était un exercice d'auto-persuasion de tous les instants. Mais Paul propose un modèle radicalement différent. L'effort ne consiste pas à créer une nouvelle réalité par la seule force de sa volonté personnelle. Le travail chirurgical dont on parlait tout à l'heure, il a déjà été accompli par un acte surnaturel, celui du Christ.
Donc, le rôle du croyant...
C'est d'aligner sa conscience sur ce fait objectif. Origène, le théologien des premiers siècles, l'expliquait brillamment. Quand il était assailli par l'avidité matérielle ou une pulsion charnelle, il n'essayait pas de réprimer le désir par la morale stoïcienne à la force des poignets.
Il faisait quoi alors ?
Il se remémorait son identité. Il se disait « Je suis mort avec le Christ ». En méditant sur cette rupture légale et spirituelle, le pouvoir d'attraction de la convoitise se dissipait. En gros, le changement de comportement découle d'un changement de statut et non l'inverse.
Waouh ! Le cheminement proposé par ces textes est vraiment vertigineux. On débute avec le diagnostic sombre d'une humanité aliénée depuis l'effondrement cosmique de l'époque d'Adam.
Ensuite, on réalise que les lois morales ne sont qu'un scanner médical.
Un scanner incapable d'extraire la maladie, ouais. Et la véritable solution prend la forme d'une chirurgie radicale de l'identité, symbolisée par cette rupture publique qu'est le baptême. La pertinence de ce discours antique pour nos défis contemporains, elle est frappante. Ça affirme que ni la génétique, ni les erreurs du passé, ni l'évaluation de la société ne définissent la valeur ou la destinée d'un être humain.
Et pour clore là-dessus, le docteur Kinner glisse une observation passionnante dans ses notes. Il rappelle que même après cette redéfinition spirituelle instantanée, nos anciens souvenirs, nos traumatismes, nos anciennes habitudes de pensée, ils demeurent physiquement câblés dans notre matière grise.
Le logiciel a changé, mais le matériel garde des traces.
Exactement.
Ce concept de recâblage offre une conclusion extraordinaire à notre analyse. Pour ceux qui nous écoutent, pensez à la neuroplasticité.
Ah oui, la science moderne ?
Oui, la science consacre aujourd'hui d'immenses ressources à l'étude de la capacité avérée de notre cerveau à reconfigurer physiquement ses connexions neuronales, en fonction de nos nouvelles habitudes de pensée. Le cerveau crée de nouveaux chemins et laisse les anciens s'atrophier par manque d'usage. Ce n'est plus ni moins la manifestation physique de l'intuition de Paul.
C'est incroyable de faire ce lien.
N'est-ce pas ? Le renouvellement de l'intelligence réclamé il y a 2 millénaires n'est pas qu'une métaphore poétique. La transformation de l'identité spirituelle peut se produire en un instant, mais le cerveau, lui, il est invité à un fascinant et permanent travail de rattrapage neurologique. Et c'est une piste de réflexion vertigineuse pour continuer d'explorer les liens entre la matière et l'esprit.